Studio Tamani, voici les informations en français.
Studio Tamani vous dit merci pour votre constante fidélité, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les inondations continuent à faire des dégâts à travers le pays à la date du mardi 27 août 2024. Sur le territoire national, 124 cas, dont 70 effondrements, ont été dénombrés. Tom Saint-Fit, nouveau sélectionneur des Aigles du Mali pour des chroniqueurs sportifs, le choix n'est pas la meilleure option. Le dossier de la semaine parle du port des bracelets. Au Mali, le port du bracelet a plusieurs sens. Comment est-il perçu dans notre société? La réponse à suivre dans ce journal. À la présentation, Adama Amadou Haïdara. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans ce journal. 33 cas de décès, 104 blessés et 11 500 ménages sinistrés. Entre autres, voilà le dernier bilan fourni le mardi dernier par la Plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes. Dans leur publication, on note que le nombre de cas d'inondation sur le territoire est de 124 avec 70 cas d'effondrement. Des dispositions prises aussi ont été annoncées. Les détails avec Mamadou Samasiko.
Selon ce bilan, les cas d'inondation ont été enregistrés dans 17 régions et le district de Bamako. Ils ont causé des effondrements dans 9 régions et la capitale. Le document mentionne également 4 cas d'électrocution par la foudre et 4 autres cas de vents violents et de tempêtes de sable. Les personnes touchées par ces inondations sont au nombre de 69 000, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants. La Plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes PNRRC précise qu'avec 34 333 sinistrés, la région de Ségou est la plus impactée par ces inondations. Elle ajoute que, face à la situation, des mesures ont été rapidement prises par la Direction générale de la protection civile. Il s'agit entre autres des opérations d'évacuation et de mise en sécurité, des appuis et des dons. Pour rappel, Mali Météo alerte sur les activités pluvio-orageuses intenses prévues au cours de la semaine. Une prévision qui concerne l'ensemble du territoire.
Dans le cercle de Blaye règne un sentiment de mélancolie et de tristesse. Les eaux de pluie ont occasionné l'effondrement de dizaines de maisons, fait des milliers de sans-abri et aussi envahi de nombreux champs. Une situation qui a suscité un élan de solidarité du gouvernement, des partenaires et aussi des bonnes volontés. À travers un comité de crise mis en place, les ressortissants du cercle de Blaye alertent sur un risque de crise alimentaire. Marc-Antier Dao, président de ce comité de crise, est joint ici au téléphone par Mamadou Samasiko.
Qu'il pleuve à Blaye ou pas, quand il pleut dans les environnements, Blaye reçoit une forte quantité d'eau qui occasionne également des dégâts. Et à la date d'aujourd'hui, ces dégâts sont inestimables parce qu'en plus des sans-abri, des cas d'effondrement des puits, des latrines, etc., il y a une situation sanitaire qui est assez précaire. Parce qu'il y a également les cas de vecteurs de maladies, les moustiques, etc., des risques d'épidémie aussi planent sur les populations. Donc, en plus de toute cette situation humanitaire, il y a les champs également qui ont été totalement envahis. Lorsque les champs sont dévastés, il y a de forts risques que la situation alimentaire puisse être très difficile à gérer.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. C'est parti depuis hier matin pour les épreuves d'examen blanc au concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA. Elles sont destinées uniquement aux candidates. Cette initiative du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille vise à rehausser le taux d'admission des femmes candidates pour l'ENA. Moumine Sendebou a fait le reportage rendu ici par Moussa Mali Sissoko.
Il est 10 heures, des candidates commencent à sortir après la première épreuve. Certaines saluent l'initiative, d'autres se préoccupent de son impact sur leur morale en cas d'échec.
Cette initiative, ça m'a beaucoup impressionné. Ça va nous faciliter à mieux préparer le concours.
Ça nous permettra de corriger nos lacunes, surtout dans le cadre de la culture générale.
Je pense que ça n'a pas lieu d'être. S'il s'avère qu'ils vont faire un résultat provisoire, il y aura des gens qui vont être un peu déçus.
Ce n'est pas une discrimination à l'échec. l'égard des hommes, mais une stratégie pour équilibrer la balance, rassure Youssouf Bagayogo, conseiller technique chargé du genre au ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.
Présentement, 407 heureux candidats à ce concours. Il y en a que 16 qui sont femmes. Et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas la compétence, certainement elles ont besoin d'être accompagnées vu les multiples contraintes sociales et même culturelles. Il ne s'agit pas d'une faveur, mais il s'agit de corriger des déséquilibres.
Après une formation de 10 jours, une centaine de candidates prennent part à cette évaluation. Les épreuves proprement dites du concours se tiendront dimanche prochain.
Comme annoncé dans les titres, le Mali a un nouveau sélectionneur. Tom Saint-Fit a été désigné mercredi nuit par la FEMAFOOT, la Fédération malienne de football. Le Belge a été favori dans une sélection de 6 personnes par la commission chargée du dépouillement des dossiers des candidatures. Pour des chroniqueurs sportifs, le Belge Tom Saint-Fit est un globe-trotteur. Souleymane Bobo-Tunkara affirme qu'il a entraîné plusieurs sélections africaines pour peu de résultats. Selon lui, une prouesse de la sélection malienne sera l'un des plus gros challenges de sa carrière. Il est joint par Intal Akbilal.
Quand on regarde un peu son parcours, on peut pas dire que forcément que c'est un bon choix sur le plan sportif parce que il n'a pratiquement aucune référence, il n'a obtenu aucun résultat ni avec la Namibie, ni avec le Zimbabwe, ni avec l'Éthiopie, ni avec le Togo. C'est seulement avec la Gambie qu'il a fait son plus gros fait d'art. Maintenant, il y a le revers de la médaille, c'est que Tom Saint-Fit, c'est quelqu'un de très impulsif. Quand on regarde un peu le nombre d'équipes qu'il a fait en 27 ans de carrière, ça fait 26. Donc, ça veut dire que c'est pratiquement une équipe par an.
Quel impact possible sur les prochain match du Mali?
Selon mes informations, il sera là dans les prochains jours et qui sera aux côtés de l'entraîneur intérimaire pour les deux matchs à venir contre le Mozambique et l'Eswatini. Peut-être qu'il va s'asseoir sur le banc pour donner quelques conseils à son adjoint.
À Koulikoro, une marche sportive a été organisée mercredi dernier. Elle a réuni les légitimités traditionnelles de Koulikoro, organisée par la coordination régionale de l'Association des journalistes sportifs de la localité. La marche avait pour objectif, selon ses organisateurs, d'amener les personnes âgées à participer à des activités sportives pour améliorer leur santé. Environ une cinquantaine de personnes ont pris part à cette marche qui s'est déroulée sur une distance de 300 mètres.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Le dossier de la semaine. Au Mali, généralement, des hommes comme des femmes portent le bracelet, parure ou objet de protection. Son acceptation dépend de la conviction de tout un chacun. Que disent les différentes religions sur le port du bracelet? Comment est-il perçu dans notre société? Les détails dans ce dossier réalisé par Khalifa Guita avec la voix de Moumine Sendebou.
Pour le port du bracelet, chaque citoyen a sa part de vérité. Écoutons ses réactions au recueilli à Bamako, Kai et Koulikoro.
Moi, je porte un bracelet en argent. C'est sur une forte recommandation de ma famille. Le bracelet en argent a des vertus de porte-bonheur, de protection contre les mauvais sorts.
Je porte le bracelet pour mes rambos. Les gens qui le portent avec des sacrifices, je ne crois pas à ça.
Moi, quand même, j'y crois. J'ai hérité le mien de mon père. J'avais du mal à dormir. Mais depuis que je le porte, je n'ai plus de problème d'insomnie.
Dans la foulée, Adam Ankoni, chef de famille à Kadjolo, estime que le port du bracelet est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Il soutient que cela fait partie de nos us et coutumes. Un fer au poignet ou au doigt a beaucoup de valeur.
Avant, on faisait porter à un nouveau-né un bracelet pour le protéger des problèmes. On ne voit pas un problème venir. Ces bracelets ne sont pas de simples bracelets ordinaires. Ils protègent certains et d'autres se défendent avec. Mais de nos jours, de plus en plus, ils sont délaissés. En tout cas, nous y croyons.
La religion musulmane est formelle là-dessus. Le port de bracelets est prohibé pour les hommes. C'est ce que nous dit Alassane Modibouba, islamologue.
D'ordinaire, dans la culture arabo-musulmane, les bracelets sont automatiquement identifiés comme des parures appartenant aux femmes. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tout homme qui se ressemble à une femme siama est maudit par Allah. Toute femme se fait ressembler à un homme est également maudit. Donc un homme ne doit pas le faire. S'en éloigner vaut beaucoup mieux de le porter pour ces questions-là.
Du côté des chrétiens évangéliques, le port du bracelet n'est pas mauvais en soi. Cependant, pour d'autres fins, la Bible ne le recommande pas. C'est ce qu'affirme le pasteur Rata de Diara.
Le bracelet, c'est une parure, un ornement que tout le monde peut porter. Mais des bracelets magiques qui donnent certains pouvoirs ou qui protègent ces bracelets-là, il faut beaucoup faire attention. Ces bracelets sont en rapport avec les démons. Et les démons sont mauvais pour les humains. Selon la Bible, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ se confient à Dieu seul, sans recourir à autre chose pour se protéger.
Malgré ces différents avis, le port du bracelet reste toujours d'actualité et certains croient fermement à ses vertus de protection contre les mauvais sorts.
8 heures passées de 10 minutes, ainsi prend fin l'édition de ce vendredi 30 août 2024. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. La version Bambara, c'est juste après le magazine. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée de vendredi et bon début de week-end à tous. Au Mali, la malnutrition constitue un problème de santé dans plusieurs parties du pays, d'où l'importance de s'intéresser à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Les nutritionnistes proposent un régime alimentaire en fonction de l'âge, composé de légumes et de fruits, la viande, le poisson, les œufs et des produits laitiers. Il indique que les enfants ont besoin d'une alimentation riche en vitamines et protéines pour permettre le développement et l'entretien des os et des muscles. Nous en parlons dans ce magazine Tous les enfants du Mali, réalisé et présenté par Ousmane Yalibouli.
Selon le docteur Wazoum Koulibaly, pédiatre au centre de santé de référence de la commune 1, pour une bonne planification de l'alimentation de l'enfant, il est nécessaire de classer l'enfant selon son âge. Docteur Koulibaly nous donne quelques détails de ce qu'il faut pour un enfant de différentes tranches d'âge.
Pour les enfants de la naissance à 6 mois, leur alimentation c'est vraiment l'allaitement maternel exclusif. À partir de 6 mois, le lait maternel seulement ne suffit pas et il doit falloir donc ajouter d'autres aliments pour compléter. Entre 6 et 9 mois, on peut toujours continuer à donner la bouillie. On peut donner plusieurs sortes de purées à l'enfant. À partir de 9 ou 12 mois, on peut lui donner le jaune d'œuf, les yaourts.
Docteur Koulibaly estime qu'un enfant doit être sévré à partir de 24 mois. Et pendant ces temps, il faut continuer à lui donner des aliments riches en vitamines. Cependant, le pédiatre ajoute qu'il y a des aliments contre-indiqués en fonction de l'âge de l'enfant.
Tout ce que nous préparons et que nous mangeons, il peut manger, mais on ne peut pas le laisser seulement sur le plan familial parce qu'il pourrait tomber dans la malnutrition. Un enfant qui est autour de 6 mois, on ne peut pas lui donner de la viande. Il s'agit de préparer une soupe. Il est interdit vraiment de donner à un enfant qui n'a pas atteint 3 ans les cacahuètes. Si on veut lui faire bénéficier des aliments-là, il s'agit aussi de les écraser.
Docteur Lamine Traoré est nutritionniste à la Direction régionale de la santé de Mopti. Selon lui, on doit donner à l'enfant des aliments complémentaires à partir de ses 6 mois pour sa bonne santé physique et mentale.
Complémentaires, c'est quoi? C'est des aliments qui sont des aliments semi-liquides. Ce n'est pas des aliments qui sont mous, mais pas trop liquides aussi. En fait, ces aliments-là devraient obéir à un certain nombre de caractéristiques. Non seulement il y a la qualité, la quantité aussi. La quantité varie selon l'âge de l'enfant. Il y a l'hygiène, donc il y a la fréquence aussi.
Des femmes de Yanfolila, Yuwaru, Sevari et Bourem semblent bien connaître des consignes des médecins, car selon elles, après l'allaitement exclusif des 6 mois, elles affirment toutes chercher d'aliments complémentaires pour leurs enfants.
Les docteurs nous conseillent d'allaiter exclusivement l'enfant jusqu'à 6 mois avec du lait maternel. Après, nous pouvons commencer la diversification alimentaire en incluant de la bouillie ou du céréal à son alimentation.
La purée de pommes de terre est très nourrissante pour l'enfant.
La soupe de pommes de terre avec du poisson ou des jaunes d'œufs peuvent aussi servir de repas à l'enfant.
De réduire le haricot en poudre pour faire la bouillie.
Des entreprises malades maliennes, notamment féminines, produisent des aliments riches en vitamines pour le bien-être des enfants. C'est le cas de Tatam Céréales, une entreprise qui transforme des céréales comme le fonio, le mil, le sorgho ou encore le maïs en farine. Halatou Dem, gérante associée de Tatam Céréales.
Vous savez que le lait maternel est le plus conseillé pour les bébés jusqu'à 6 mois, mais après 6 mois, il faut introduire des farines infantiles qui puissent être des compléments alimentaires pour le nourrisson. Donc nous produisons ces farines-là pour aider les mamans à mieux nourrir les enfants. C'est essentiel que les mamans aient à disposition des farines locales qui sont produites par des entreprises locales à très forte capacité nutritionnelle pour aider ces enfants.
Enfin, ces spécialistes rappellent que toute bonne alimentation doit être accompagnée par une bonne hygiène, c'est-à-dire protéger la nourriture des enfants des mouches et éviter les endroits malsains.